Avant de commencer cet entretien, je voulais vous parler d'un ancien président, Jacques Chirac. Oui. Jacques Chirac est bien connu pour avoir été maire de Paris, président de la République évidemment. Il a également donné son nom au musée parisien du Quai Branly. Mais est-ce que vous saviez qu'il est aussi à l'origine d'un musée en Corrèze à Saran? Le musée du président Jacques Chirac, qui sponsorise cet épisode, est un musée de cadeaux. Un endroit où sont conservés et exposés les cadeaux diplomatiques qu'il a reçus entre 1995 et 2007. Après une première phase de construction en 2000, le musée, devenu trop petit pour les milliers de cadeaux offerts, s'est agrandi en 2006 et participe évidemment aux événements culturels nationaux comme les Journées du patrimoine ou encore la Nuit des musées. Alors en toute logique, on y découvre aussi des expositions temporaires, après les photos de Yann Arthus-Bertrand, de Depardon, les céramiques chinoises, les tapis de président ou encore en 2021 les dessins de Cabu, qui a croqué nos chefs d'État comme personne. On trouvera cette saison 4 expositions dont le fil conducteur est la personne du président de la République dans sa généralité, ou c'est quoi un président, à voir jusqu'au 19 novembre. Alors si un petit week-end en Corrèze vous tente, rendez-vous au musée du président Jacques Chirac à Saran. Et à présent, place à l'entretien. Bonjour à tous et à toutes, je suis Thomas Louis et bienvenue dans La Quille, le podcast où on parle de culture avec ceux et celles qui la font. Aujourd'hui, je reçois une comédienne, sociétaire de la Comédie Française, Dominique Blanc. Mais je ne la reçois pas pour parler d'une pièce, ni même d'un film, mais bien d'un livre, Chantier Je, paru en cette rentrée aux éditions Actes Sud. Un livre majoritairement d'entretien où Dominique Blanc revient sur son parcours ainsi que sur trois pièces clés dans sa carrière, Le mariage de Figaro, Phèdre et Angels in America. Car pour la première fois, le parcours et certains rôles de l'actrice sont au programme du bac en spécialité théâtre. Une assez grande nouvelle pour que je me décide à l'inviter à ce micro pour en parler ensemble. Alors, avec Dominique Blanc, on a parlé de transmission, bien sûr, mais aussi du texte de La douleur de Marguerite Duras, qui l'accompagne et qui l'accompagnera encore au fil de sa carrière, de son rapport au chant, ou encore de son entrée à la Comédie Française. Bonne écoute. Bonjour Dominique Blanc.
Bonjour.
Alors, pour la première fois, l'année 2024-2025, c'est l'année où l'objet d'étude des lycéens au bac pour l'enseignement de spécialité de théâtre sera une comédienne. Son parcours, ses rôles, etc. Ça n'est pas rien.
Non.
Comment vous avez réagi quand vous avez appris cette nouvelle?
Alors, pour tout vous dire, quand je l'ai appris, c'était en 2022, donc. Ouais. Et j'ai cru à une blague.
À ce point?
Je me suis dit, c'est pas possible. La personne qui m'a annoncé ça, je me suis dit, c'est une fake news, faut laisser tomber. Et j'étais dans le déni absolu,
ouais.
Jusqu'à ce que je me mette à rencontrer les enseignants avec lesquels je devais avoir des entretiens autour des rôles que j'avais choisis.
Ouais, qui sont dans le livre, évidemment.
Qui sont dans le livre, et alors là, c'est devenu très, très concret, d'autant plus que Actes Sud pensait à un livre possible, si j'avais envie, moi, d'écrire, par exemple, ce qu'étaient mes débuts ou ce qu'était le début. Et alors j'ai sauté sur l'occasion parce qu'en fait j'aime énormément écrire, j'aime beaucoup lire aussi. Et quand j'ai eu les gens d'Actes Sud au téléphone, je me suis rendu compte que c'était tout d'un coup quelque chose d'extrêmement concret, qu'il allait falloir s'y mettre.
Ouais, ça va se produire.
Il reste pas beaucoup de temps, donc on va se dépêcher d'écrire. Et voilà, je me suis lancée et j'ai trouvé l'aventure assez merveilleuse.
Alors. Oui, on ne peut pas ne pas évoquer cette notion en parlant de ce travail, de ce livre, de ce projet, c'est la transmission. Est-ce
oui.
que l'idée de transmission vous a directement, alors j'allais dire effleuré l'esprit, mais oui, disons ça,
oui.
vous a effleuré l'esprit lorsqu'on vous a proposé ce projet? Est-ce que tout de suite ça a été un moteur, la transmission, transmettre cet apprentissage à la jeunesse en l'occurrence, puisque le bac,
oui.
on n'a généralement pas 45 ans quand on le passe.
Oui, oui. Ah bah la transmission, je pense que c'est tout à fait essentiel. Et l'idée qui m'est venue tout de suite, c'est de me rendre dans les classes. Et
okay,
j'espère
génial.
Beaucoup le faire pour
ouais.
les deux années à venir. C'est-à-dire aller dans les classes de terminale et puis regarder comment ça se passe et donner mon avis si on me le demande. Oui, oui. Je crois que la transmission, c'est tout à fait essentiel dans mon métier, dans tous les métiers, mais particulièrement dans le mien, puisqu'on peut avoir fait des formations classiques dans des écoles officielles, etc. Et puis on peut aussi avoir appris sur le tas, ce qui est plutôt ma formation. Et je pense que je peux éclairer quelques chemins.
Et alors, il y a quelque chose là qui me vient en tête, parce que je m'intéresse aussi beaucoup à la littérature contemporaine. Vous existez, vous n'êtes pas Molière. Et ça, c'est important quand on est jeune aussi.
Mais c'est ce que j'ai pensé, oui, c'est que de chair et de sang est vivante. Mmh. Et ouf. Et tant mieux, parce que finalement, on peut poser toutes les questions.
Ouais.
Il n'y a aucun interdit. Alors, j'ai rencontré déjà les lycéens et ça s'est extrêmement bien passé. J'ai rencontré aussi d'autres enseignants que les trois qui sont dans le livre. Mais c'était de bout en bout passionnant. Il a fallu d'abord choisir les pièces, puisque c'était le théâtre. Donc, on ne parle pas du cinéma, on ne parle pas de la télévision non plus. Et pour les pièces, je pensais, et on me l'a précisé, qu'il fallait des œuvres audiovisuelles, quoi. Il faut des images, sinon ça n'est pas possible.
J'ai même pas, bien sûr, oui.
Voilà. Si j'avais choisi, par exemple, une pièce que j'ai faite qui n'a pas été filmée, ça ne marche pas.
Donc, ça, entre guillemets. Le choix de ces trois pièces, Le mariage de Figaro, Phèdre et Angels in America, ça a été ça, en fait, le critère numéro un.
Oui. C'est-à-dire, je me suis dit, à l'âge que j'ai, en étant au français, il faut que je choisisse trois âges de la vie, finalement. Donc, la jeunesse, c'était vraiment Suzanne dans Le mariage de Figaro, et c'est le personnage. Phèdre, c'est vraiment la sensualité, l'érotisme, une quarantaine d'années.
Ouais.
Et puis après, la femme plus mûre que je suis, qui se retrouve avec six rôles différents, dont trois hommes et trois femmes.
Dans Angels in America, ouais.
Voilà, et Angels in America, donc ça m'a paru vraiment être les trois meilleurs choix.
À un moment dans le livre, on est à vos débuts et vous dites que les acteurs du TNP, de Villeurbanne, de près de Lyon, là d'où vous venez, avaient l'air plus heureux que les spectateurs et que c'est ce que vous vouliez retrouver.
Oui.
Est-ce que ça pourrait être une bonne définition de ce que vous cherchez encore aujourd'hui ?
Ah oui.
Une définition perpétuelle du métier de comédienne ?
Ah oui, c'est une définition sans fin, c'est-à-dire que, bon, évidemment, il vaut mieux que le public ne s'ennuie pas, mais à partir du moment où je suis sur un plateau, je ne sais pas comment vous dire, je suis chez moi, ce qui ne veut pas dire grand-chose, mais je suis surtout dans un état de félicité absolue. Parce que je sais que j'ai des partenaires, j'ai un texte à défendre, j'ai une histoire à raconter.
Ouais.
Et de soir en soir, il ne se passera jamais la même chose. Il y aura de toute façon des incidents, des accidents et des surprises. Et oui, j'ai toujours ce même état de félicité et d'harmonie, même si parfois les répétitions sont difficiles, chaotiques, ou enfin ça n'empêche pas les difficultés, mais ça me paraît une terre, vous savez, dans Terre étrangère, Arthur Schnitzler a cette phrase absolument magnifique: l'âme est une terre étrangère. Et pour moi, le plateau, c'est ça, c'est une terre étrangère, mais c'est une belle terre étrangère.
Il y a des plateaux, il y a des salles dans lesquelles vous vous sentez mieux que d'autres?
Ah oui.
Par exemple.
Ah ben j'adore le théâtre de l'Odéon.
Okay.
Je trouve que c'est vraiment c'est une espèce de Stradivarius exceptionnel. Il y a un rapport avec le public qui est vraiment merveilleux. Au niveau du son, vous pouvez chuchoter, tout va passer. Et au niveau des spectateurs, vous les voyez tous et vous les sentez tous. C'est ça qui est important.
Ouais, le rapport au spectateur est évidemment différent en fonction des salles. Oui.
Ah oui, oui, oui. La salle Richelieu, par exemple, au Français, est une salle agréable, mais qui n'est pas facile du tout. Le plateau est en pente et au niveau du son, il faut projeter beaucoup. Il faut y aller, quoi.
Il ne
faut pas s'imaginer qu'on parle à voix basse.
Ouais. Il y a aussi peut-être les ateliers Berthier, vous qui êtes à la Comédie Française.
Souvenir historique, les ateliers Berthier.
Qui est peut-être, je sais pas, une salle impressionnante. Enfin,
oui.
Moi, en tant que spectateur, je me suis projeté là-dedans, en tout cas.
Ben, c'est-à-dire que la première fois qu'on l'a visité, c'était, il n'y avait rien. Hein.
Ouais.
Donc, c'était un atelier d'entrepôt, porte de Clichy. Et quand on l'a aperçu, nous, avant de faire la première lecture, on était tétanisés quand même.
Déjà qu'une lecture en soi, il y a quelque chose de...
Bah on a
j'imagine impressionnant, oui.
Mais oui, oui, on se retrouve tous, on est tous très, très tremblants et très joyeux. Mais tout d'un coup, dans ce grand entrepôt, il n'y avait rien du tout, c'est-à-dire pas un fauteuil, pas une estrade, rien. C'était une immensité qui, moi, personnellement, m'a beaucoup effrayée. Après, quand on est revenu, on a essayé de l'oublier le plus vite possible. Et
ouais.
Puis, Chéreau a fait en sorte qu'on l'oublie très vite. Mais quand on y est revenu au moment des fêtes, par exemple, les gradins avaient été montés.
Okay.
Et on s'est donc rendu compte qu'en bifrontal, on avait au premier rang des gens qui étaient encore plus proches que vous n'êtes maintenant. Et au dernier rang, donc des gens qu'il fallait atteindre avec la même précision et la même intimité. Donc le pari était impossible, quoi. Ouais. On avait des micros. Bon, ça, évidemment, ça nous a aidé beaucoup. Et puis l'éclairage a fait qu'une fois qu'on a été habillé d'obscurité, on s'est senti tout à fait chez nous. Mais c'était quand même assez effrayant.
Oui, il y a toujours une petite part de vulnérabilité qui se niche quelque part.
Oui.
On parlait de, enfin, vous venez de parler de micro. Est-ce que vous aimez votre voix?
Oui.
C'est pas une question qui vous a.
Je me la suis jamais posée en fait. Mais je sais que j'ai une voix qui passe bien. Je touche du bois. Je crois que j'ai relativement peu de problèmes de voix.
Ouais.
J'aimerais me lancer dans la chanson. C'est un appel.
C'était complètement ma prochaine question. Je sais que vous aimez chanter sur scène, que vous dites jamais non. Si on
non,
vous propose
j'adore.
De chanter, ouais.
Oui, au théâtre comme au cinéma, j'adore ça parce que quand on a l'occasion de travailler avec un bon prof de chant et qu'on a quelque chose à chanter qui est beau, ça participe de ce métier et du bonheur de ce métier, c'est sûr.
Il y a un moment dans votre carrière, 2 ans, je crois, de mémoire, où on vous appelait plus. Où vous avez connu, disons, une période de, je sais pas, de solitude peut-être, c'est une forme de solitude, ce sera vous qui me le direz, mais est-ce que à ce moment-là, et peut-être, est-ce que c'est le cas constamment, est-ce qu'à ce moment-là vous avez douté d'être comédienne, est-ce que ce travail, est-ce que ce métier, c'est intimement lié à cette notion parfois douloureuse, j'imagine, de solitude?
C'est une question qui n'est pas facile. En fait, ça s'est produit après Phèdre, justement.
Ouais.
Et ça a été le silence total et un silence assourdissant sans humour. C'est-à-dire que tout d'un coup, j'ai perdu pied. Je n'ai pas compris du tout ce qui se passait. Et en fait, il ne se passait rien pour des raisons qui sont liées à ce métier aussi, hein, qui fait que tout d'un coup, la roue tourne, on vous oublie, les gens pensent que vous êtes très pris ou que tout d'un coup, vous ne voulez travailler qu'avec un seul metteur en scène ou vous voyez, des choses comme ça.
Oui, ils n'osent peut-être pas aussi.
Ouais,
y a beaucoup de raisons.
Oui, il y a ça aussi, la timidité, enfin, toute la sauvagerie, tout ce qu'on veut. Ce qui fait que, bon, au fur et à mesure, ben, j'ai plongé dans la Grande Dépression, voilà.
Et cette période qui, j'imagine, aussi était remplie de doutes, c'était juste avant La Douleur.
Oui.
La Douleur, c'était un texte de Marguerite Duras, que vous avez encore joué l'année dernière et cette année aussi.
Oui.
Mais ça n'était pas la première fois, bien sûr. Vous l'avez porté sur scène de 2008 à 2011 au TNP de Villeurbanne, avec la mise en scène originelle, c'est important, de Patrice Chéreau et de Thierry Thionniang. Je crois qu'il y avait d'ailleurs, derrière ces représentations, une espèce de démarche, peut-être pas d'hommage, mais vous me direz, mais de clin d'œil à Patrice Chéreau. Mais est-ce que l'idée de vivre, d'évoluer, de vieillir avec un texte, est-ce que c'était également dans un coin de votre tête quand vous avez décidé de reprendre cette pièce, La Douleur?
Ah oui. En fait,
je trouve ça assez beau comme idée, ouais.
Ah oui, je rêvais de trouver un texte avec lequel je pourrais faire, entre guillemets, le tour du monde. Et comme je vis avec quelqu'un qui travaille dans la lumière, je voyais ça un peu à la mode Molière, vous voyez, c'est-à-dire pas à la roulotte, mais allant sur les routes, et puis lui, avec les projecteurs qu'il y a dans le théâtre sur place, qui fait la lumière, et on voyage dans le monde entier, c'était ça. Alors, c'est pas venu tout de suite, hein, mais ce désir était là. Mais il fallait trouver le texte. Il s'est avéré qu'avec La Douleur, il s'est passé quelque chose d'exceptionnel. C'est-à-dire que entre Thierry Thionniang, Patrice Chéreau et moi, c'est Thierry Thionniang qui a apporté ce texte de La Douleur parce qu'il est un grand amoureux de Marguerite Duras, d'origine vietnamienne comme son nom l'indique. Et Patrice et moi, on a eu un coup de foudre pour ce texte que je ne connaissais pas du tout. Chéreau en a fait un montage. On a commencé par faire des lectures à deux dans le regard de Thierry, donc Chéreau et moi. Et puis un jour, je me suis rendu compte que c'était l'histoire d'une femme qui attendait toute seule rue Saint-Benoît en avril 45. Donc c'était cette histoire qu'il fallait raconter. Et j'ai demandé à Chéreau s'il pouvait me mettre en scène toute seule là-dedans, ce qu'il n'avait jamais fait. Il a pris le temps de réfléchir et il m'a dit oui.
Et on en est là aujourd'hui.
Voilà, et je le reprends l'année prochaine.
Et vous le reprenez l'année prochaine, c'est une breaking news.
Oui.
Alors revenons un peu au livre. Vous, votre vision du jeu qui est notamment étudiée, c'est, je vous cite, la part de l'acteur dans la création. Est-ce qu'on peut dire que pour vous, endosser un rôle, c'est avoir une responsabilité déjà?
Ah oui, certainement, oui.
Et en quoi, chez vous, cette part active que je viens de citer, elle intervient? Est-ce qu'on pourrait parler d'engagement, aussi bien du corps, de la voix, que aussi de l'engagement intellectuel, hein, bien sûr. Est-ce que ce mot pourrait toucher de près ou de loin ce que vous essayez de construire quand vous essayez de jouer ?
Ah ben c'est un mot qui me plaît terriblement. Engagement de partout. Ouais. Engagement corporel, intellectuel, psychologique, psychique. Enfin, je crois que c'est un envahissement quand on s'attaque à un personnage. Et le mot engagement me va tout à fait bien, oui. Je pense que... Enfin, j'ai toujours eu l'idée qu'on joue pas n'importe quoi, n'importe comment. Et comme j'ai eu la chance de démarrer au départ avec des gens extrêmement brillants, je dois dire que leur exigence m'est parvenue. Et j'ai fait en sorte, après, que mes choix reflètent cette exigence-là. Donc, ça veut dire aussi de dire non à pas mal de choses, ce qui est toujours un peu effrayant dans ce métier, parce qu'on ne sait jamais de quoi demain est fait. Mais ça m'est arrivé pas mal de choses que je ne voulais pas faire.
Mais qu'est-ce qu'on peut voir de vos obsessions dans vos choix, justement ?
Ah, mes obsessions ?
Ouais.
Oui, bien sûr, on peut les voir.
Qu'est-ce qu'on peut en voir ?
La qualité. La qualité du jeu, la qualité du personnage,
ouais.
La qualité des partenaires. Ce qui est très important pour moi, par exemple, je ne sais pas si je l'ai dit dans le livre, je ne crois pas, c'est quand je rencontre un metteur en scène ou une metteuse en scène, c'est l'urgence avec laquelle ils ont envie de monter ce projet. Si c'est juste un projet de plus, bon.
Ça serait une comédienne de moins.
Oui, parce que ce n'est pas la peine d'y aller, enfin... Et je crois qu'il faut une force du désir qui soit gigantesque, en tout cas pour moi. C'est déterminant. Je crois que c'est ce qui me motive le plus, qu'il y ait cette envie, pas cette envie de changer le monde à chaque fois, ça serait épuisant, mais ce désir, oui.
Vous vous renseignez beaucoup sur vos personnages, notamment dans le cas de pièces classiques.
Ah,
je
oui.
sais que vous êtes assez poreuse, par exemple, au cinéma, à d'autres formes d'art pour vous,
ah oui, oui,
vous imprégner.
Oui. Ah oui, oui, mais ça peut être des expositions, ça peut être un tableau, ça peut être une musique, ça peut être un autre comédien ou une autre comédienne dans un spectacle. Mais je pense que moi, c'est ce qui me passionne le plus, hein, c'est cette recherche.
Vous aimez, vous êtes travailleuse, vous aimez le labeur.
Oui, j'aime le mot labeur.
Vous aimez le mot labeur.
Oui, carrément. Oui, oui, c'est une aventure, c'est une aventure de tous les instants qui se construit au fur et à mesure. Et par rapport au titre, parce qu'on m'a déjà beaucoup critiqué sur le titre, j'ai utilisé le mot chantier.
Oui, le titre du livre, pardon, chantier au pluriel, virgule je.
Voilà.
J-E.
Voilà. Chantier, je pense qu'un rôle, c'est un chantier. Voilà.
Ouais.
C'est-à-dire, c'est une espèce de vaste bazar dont on va, qu'on va essayer de construire. Et c'était en lien avec les études d'architecture que j'ai pu faire au début. Mais c'est toujours vivant, c'est-à-dire que ça continue de vous habiter toujours. Les soirs où vous jouez, bien évidemment, il faut essayer de ne pas faire la même chose que la veille. Mmh. Et puis se renouveler en même temps que les partenaires, se renouveler en même temps que le public, qui n'est non plus jamais le même. Donc le mot chantier et les mots labeur, c'est les mots qui me vont bien. Parce que c'est un sacré boulot d'être comédienne, je le crois vraiment. Je pense que sur un plan, au niveau de la société, ça n'est certainement pas plus facile qu'à mon époque. Donc mon époque, je vous la situe, c'est fin des années 70, début des années 80, où j'ai rencontré Chéreau en 81. Je ne pense pas que ce soit plus facile aujourd'hui. Je ne sais pas si ce n'est pas même plus difficile. Parce que entre les réseaux, Internet, les bandes de démos, les critères physiques, ce que vous dites, ce que vous voulez faire, etc. Il y a des sélections qui sont terribles, quoi. Donc, j'ai eu beaucoup de chance.
Beaucoup de chance, et pas que, j'imagine, mais il y a une étape dans votre carrière qui est intervenue il n'y a pas si longtemps que ça. Vous avez intégré la Comédie Française à l'âge de 60 ans.
Mm-hmm.
Ça n'est pas une étape anodine dans un parcours, évidemment, parce que la Comédie Française, c'est plein de choses. C'est le collectif, c'est ce labeur, j'imagine, conséquent et permanent. C'est un engagement. Et puis, c'est aussi un symbole, tout simplement. Le moment où Éric Ruff, qui est l'administrateur général depuis 2014 de la Comédie Française, ce moment où il vous le propose, est-ce que l'idée de... Parce qu'on parlait de chantier, est-ce que l'idée d'un nouveau souffle dans votre parcours est intervenue ? Est-ce que vous vous êtes dit, tiens...
Ah oui, non, Mais je me méfie toujours de ce genre de, d'expression.
Ouais.
Pardon, hein, mais
ah bah
parce
non, tout
que...
va bien.
Bah, à 60 ans, en fait, on vous a mise, on pourrait vous avoir mis au placard depuis que vous avez 40 ans, par exemple.
Ouais.
Parce que dans le cinéma français, c'est en train de bouger, mais ça ne bouge pas encore assez. Mais ça va bouger. À la télévision aussi. Et puis au théâtre, si, on a quand même le droit de vieillir. Non, je n'ai ouais. pas pensé à un nouveau souffle.
Pour vous, j'entends, vous voyez, un nouveau...
Oui, oui, oui. Non, je me suis dit simplement... Je suis restée, de toute façon, ébahie devant la proposition. J'étais tout à fait stupéfaite. Je pensais qu'ils voulaient me voir pour un projet à l'extérieur. Donc, j'ai vraiment pris le temps de réfléchir. Je pense que je n'imaginais pas que c'était aussi lourd. Mais je ne regrette rien. J'ai trouvé, et je trouve, cette expérience vraiment exceptionnelle. Avant d'y rentrer, je pensais que les acteurs du français étaient de grands sportifs. Je le pense encore plus maintenant.
Je comprends.
Parce que physiquement, c'est un engagement. Alors là, pour le coup... de tous les instants, parce que vous répétez l'après-midi de 13h à 17h, vous avez une pause et vous recommencez à jouer à 20h30. Mais entre les deux, il faut les costumes, le maquillage, la coiffure, il faut manger, il faut se reposer, il faut faire son texte, faire une italienne, etc. Et ça repart pour le soir. C'est grisant, c'est enivrant, sauf qu'on ne peut pas faire ça toute l'année.
Bien sûr, parce que sinon...
Ah bah physiquement, c'est beaucoup.
Il y a aussi peut-être, alors ça je n'en fais pas partie, mais un esprit de troupe peut-être.
Oui, alors ça...
Ça change une pratique peut-être ça aussi du théâtre.
Oui, tout à fait, ça c'est une très bonne question. Non mais parce que, plus sérieusement, il y a pas mal de personnes avant que je n'y rentre qui m'ont dit « Oulala, panier de crabe, au secours, etc. » Ça ne s'est pas passé comme ça du tout. J'ai été accueillie par la distribution de Britannicus, puisque je jouais Agrippine. Donc une toute petite distribution, ça compte. Avec des comédiens que j'aime plus que tout, comme Laurent Stocker, Hervé Pierre, Stéphane Varupen. Son nom reviendra tout à l'heure. Et ils m'ont accueilli vraiment merveilleusement. Et puis après, il faut faire son trou quelque part. Ouais. Et il n'y a qu'à travers le travail, finalement, que ça peut avancer. Donc, j'ai fait des choix que j'ai aimés beaucoup. Par exemple, le choix de jouer Vania avec une jeune metteuse en scène tout à fait inconnue à ce moment-là, en 2016, Julie Deliquet, qui avait déjà une propre méthode à elle, avec beaucoup d'exercices d'improvisation. Et voilà, moi j'avais un tout petit rôle, je faisais Maria Evgerovna, qui est un rôle qu'on oublie toujours dans Vania, en fait c'est la mère de Vania. Et quand j'ai rencontré Julie m'a dit, mais pour moi, il y a 6 ou 7 personnages et ils sont tous aussi importants les uns que les autres. Donc on s'est retrouvés en bifrontal au Vieux Colombier et ça a été merveilleux, franchement merveilleux. Donc non, ça me plaît énormément la comédie française. Les gens me plaisent beaucoup parce qu'il y a énormément d'humour. On n'est pas chez les bisounours non plus. Je pense que les choses se disent, elles se disent parfois violemment, mais la vie est violente. Et l'essentiel, c'est que la vérité sorte et qu'on sache les choses pour de bon. Donc là, c'est ce qui se passe. En tout cas, moi, c'est ce que je vis chaque jour en étant là-bas. Et ça me plaît infiniment.
Est-ce que votre aura de comédienne a changé depuis que vous êtes à la Comédie-Française? Est-ce que ça change la manière dont on pense, dont on imagine, dont on projette votre jeu?
Ah oui, ça change. Ça change beaucoup parce qu'on parle tout le temps. En fait, on parle tout le temps dans les couloirs, on parle tout le temps dans le foyer, on parle aussi dans les coulisses, on ne peut pas s'arrêter de parler. Et en fait, on partage tout le temps la vie sur un tel, le spectacle que j'ai vu hier, qu'est-ce que tu penses de ce film, est-ce que tu as aimé cette série, ça n'arrête pas. Et on parle des comédiens, mais tout le temps, mais des comédiens du monde entier. Moi, je ne suis pas toujours, parce que je ne suis pas très au courant des séries, par exemple. Je n'ai pas Canal+, enfin, vous voyez.
Moi non plus.
Voilà. Bravo. Et pour se tenir au courant, c'est vraiment formidable. Et en fait, ce qui tient tout ça, c'est la passion aussi. Hein. C'est la passion de jouer. Et puis, un accident, tiens, elle se fait une entorse, elle ne peut pas jouer. Vite, il faut quelqu'un qui puisse lire le texte ce soir. On appelle qui? Enfin, cette espèce de situation d'urgence aussi, qui est qu'on vit dans un théâtre où il y a en alternance... énormément de spectacles. Vous pouvez jouer le samedi après-midi, le samedi soir, le dimanche après-midi, le dimanche soir, et aussi jouer au studio à 18h30, par exemple. C'est ce qu'a fait, enfin, c'est ce que font beaucoup de comédiens et de comédiennes de la troupe. Je les admire énormément. Je ne sais pas comment ils font.
Ouais, c'est clair.
Mais c'est brillantissime. C'est brillantissime. Alors, évidemment, il y a aussi, au travers de ça, la vie en vrai et la vie en grand, quoi. C'est-à-dire qu'on se connaît beaucoup. On se connaît bien les uns les autres. À partir du moment, moi, où je travaille avec quelqu'un, je connais la personne. Avant, je ne la connais pas, je ne sais pas qui c'est. C'est vrai, hein ?
Je vous crois. Je travaille tout seul, mais je vous crois. une pièce, c'est souvent lié à un espace, à une salle. Mais vous, quels sont vos lieux préférés à titre personnel pour jouer ?
J'aime beaucoup les endroits qui ne ressemblent pas à des théâtres, comme par exemple la Manufacture des œillets, où Patrice Chéreau a joué la Solitude des champs de coton avec Pascal Grégory.
De Coltès.
De Coltès.
Ouais.
C'est-à-dire des lieux, et je crois que ça s'est arrivé vers la fin de sa vie. Enfin non, il avait dû expérimenter ça probablement quand il avait 60 ans. Ces lieux qui ne sont pas des théâtres, qui sont des lieux industriels pour la plupart, et qui sont des lieux, vous jouez en fait pas sur du bois, vous jouez sur du béton.
Ouais.
Ça a l'air de rien,
mais en
fait vous êtes sur la terre. Et ça n'est pas du tout la résonance du bois, le bruit des talons, tout ce qu'on pourrait imaginer. C'est quelque chose qui fait que c'est une espèce d'épure. Et j'aime énormément ces endroits-là. Avec la douleur, j'en ai pratiqué quelques-uns, pas aussi grands et pas aussi connus. Mais c'est presque les lieux que je préfère.
D'accord.
Parce que tout est à faire, en fait, pour approcher les gens. Pour les séduire et pour les emmener, il y a un travail considérable à faire. Comme moi, j'ai fait grande partie de mon travail dans le théâtre subventionné, j'aime aussi, évidemment, beaucoup les grands plateaux, c'est-à-dire le théâtre de Toulouse, c'est-à-dire le TNT qui s'appelle maintenant Théâtre de la Cité, je crois. J'avais jamais joué en plein air à Fourvière, donc à Lyon. J'ai joué Tartuffe à Fourvière, en plein air, j'ai adoré. Je trouve ça extraordinaire de jouer devant 2000 personnes. Ce sont des émotions, si vous voulez, que je n'avais pas connues auparavant, qui me troublent et que j'adore.
Et qui, en plus, se sont passées à Lyon.
En plus.
La ville que vous avez...
Et Toulouse.
Et Toulouse aussi, bien sûr, on n'oublie pas. J'ai une petite avant-dernière question, du coup. Je crois qu'il y a quelque chose que vous aimez faire, c'est écrire.
Oui.
On est déjà pas mal parti avec l'avant-propos de ce livre, mais à quoi ressemble cette envie d'écrire ? De quoi on parle là ? De romans, de poésie ? Quels sont vos projets d'écriture ?
Ah, écoutez, poésie, je vous le dis tout de suite, je crois pas.
Ouais.
Non, parce que je le saurais déjà.
Du théâtre, peut-être ?
C'est possible.
Ouais.
En relisant des journaux de jeunes filles comme ça qui traînaient, je me suis rendu compte qu'en fait, quand j'avais entre 18 et 20 ans, je voulais deux choses. Écrivain, écrivaine, autrice n'existait pas, mais bien sûr autrice, et comédienne. Et en fait, j'ai laissé la place à... Enfin, j'ai choisi la comédienne. Mais j'aime le travail de l'écriture, j'aime la solitude que ça comporte, comme vous, puisque vous êtes tout seul aussi. Et puis, ça me provoque une espèce de réflexion, de prise de recul. Ça n'a rien à voir avec le métier de la comédie, en fait. Vous analysez en permanence, vous cherchez, vous lisez, vous relisez d'autres personnes.
On refait
aussi. Évidemment. Et on n'arrête pas de faire et de refaire. Moi, j'écris à la main sur un papier A4 de façon toute simple. Et il se trouve qu'à l'occasion de cette chose-là, de ce livre chantier, j'ai découvert ce plaisir alors que je ne l'imaginais pas. On a des rêves dans la vie, heureusement. Mais voilà, c'était un rêve. Je me disais, mais c'est pas grave. Peut-être qu'un jour, on va me demander de jouer une autrice. Et alors là, ça sera formidable. Mais
ça veut dire qu'on peut imaginer
tout,
dans
en fait.
Les années à venir.
Pourquoi pas Là, à l'instant précis, je pense à la merveilleuse performance qu'avait fait Nicole Kidman dans le rôle de Virginia Woolf, vous vous rappelez ce film sublime qui s'appelait The Hours. Alors, je ne sais pas, peut-être qu'on va m'offrir un rôle d'autrice ou peut-être que moi-même, je vais écrire davantage.
C'est
en
ça.
Tout cas, j'ai vraiment envie, oui.
Alors, on en a très brièvement parlé, vous allez reprendre La Douleur.
Oui.
Quelle est votre actu à la rentrée ? dans les, peut-être les mois à venir?
Alors, l'actu de la rentrée cet automne, nous avons la grande chance de partir en tournée avec Tartuffe. Et ouais. C'est une tournée qui devait nous emmener en Europe du Nord, qui a décliné la Norvège, la Suède, le Danemark, etc. pour des raisons financières, ce qui paraît troublant. Mais ça l'est.
Okay, ouais.
Et du coup, nous nous retrouvons dans un pays que je ne connais pas du tout, mais que j'ai très envie de connaître, qui est la Hongrie. Et nous allons jouer à Budapest et dans une autre ville de Hongrie. On y reste une dizaine de jours. Et puis ensuite, on va jouer en Roumanie, dans une ville qui est, je crois, capitale européenne de la culture cette année 2023. C'est Timișoara en Roumanie. Je crois bien que c'est cette année.
Okay.
Et puis ensuite, bon, c'est plus simple, c'est la Bretagne autour de Paris, voilà.
C'était pas mal aussi.
Mais moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les théâtres en banlieue et les grands plateaux, les théâtres modernes, justement. Et puis, après, je reprends la douleur. Et je pense qu'après, je l'arrêterai pendant un certain temps. Mm-hmm. Peut-être définitivement, j'en sais rien, c'est la vie qui nous le dira. La dernière fois que je vais la jouer, imaginez-vous, c'est le 14 mai. Et je vais jouer au Piccolo Teatro di Milano, qui est vraiment le lieu où Patrice Chéreau a tout appris du théâtre. Voilà, c'est le dernier cadeau que je voulais lui faire.
Un beau symbole.
Ouais.
Et je vais vous poser une dernière question que je pose à tous mes invités, à toutes mes invitées. Est-ce que vous avez plusieurs coups de cœur culturels à nous partager?
À recommander. Alors écoutez, cet été, j'ai découvert deux livres que j'aime beaucoup et qui sont à mon avis des livres que je vais relire. Il y a d'abord tous les livres de Cynthia Fleury, mais justement celui-là qui s'appelle « La fin du courage
okay. »,
que j'ai trouvé vraiment exemplaire. Et puis, je lis aussi beaucoup, donc ces deux femmes philosophes, Claire Marin, et actuellement, je suis le nez dedans, c'est paru en poche, « Trouver sa place ».
C'est le dernier qu'elle a publié, elle était venue ici pour Rupture, à ce micro.
À ce micro, bien sûr. Et Cynthia Fleury, je crois, sort un livre cette année, vous allez sûrement la recevoir. Cet été, je découvre La fin du courage et j'achète Sigil la mère, évidemment, toujours de Cynthia Fleury.
Ouais.
Et dans un magazine, je découvre hier, avant-hier, je ne me rappelle plus, qu'il y a un livre de Cynthia Fleury qui sort et qui s'appelle La clinique de la dignité. Et j'ai lu cette interview et elle parle de la façon d'ennoblir à nouveau ce terme de dignité. Et j'ai trouvé cet entretien absolument magnifique. Parce qu'effectivement, je pense que dans le métier d'artiste, au fond, comédienne ou autrice, c'est un mot qui doit nous accompagner toujours. Dignité. Dignité et générosité.
Merci beaucoup, Dominique.
Merci à vous.
Et bien voilà, la quille, c'est terminé pour cette semaine, mais on se retrouve évidemment la semaine prochaine avec un nouvel invité ou une nouvelle invitée pour parler culture. Merci beaucoup pour votre écoute et à la semaine prochaine.